Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de l'actualité tech et juridique. Je suis ravi d'ouvrir ce dossier aujourd'hui.
Salut Sam. Ouais, un dossier vraiment dense et fascinant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, imaginons un instant la scène suivante. On décide de louer un coffre-fort ultra sécurisé en plein cœur de Paris.
Ouais, pour y ranger des trucs hyper sensibles, genre des contrats, des dossiers médicaux, des secrets industriels.
Exactement. L'acier est super épais, la serrure est inviolable, le bâtiment est gardé nuit et jour. Bref, tout semble parfait.
Sauf qu'il y a un détail critique qui nous échappe souvent.
Bah oui, parce que la banque qui gère ce fameux coffre-fort appartient en fait à une maison mère située sur un tout autre continent.
Et c'est là que ça dérape.
Totalement. Un beau matin, un juge étranger ordonne au patron de cette maison mère de forcer l'ouverture du coffre parisien. Le directeur local n'a pas le choix, la perceuse entre en action et tous les secrets s'envolent.
Et tout ça dans la plus parfaite légalité, du moins selon les lois de ce pays étranger. C'est vraiment le dilemme terrifiant des avocats aujourd'hui avec le numérique.
C'est exactement le sujet de notre exploration. On décortique aujourd'hui la nouvelle stratégie numérique de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Un rapport intitulé « Vers un barreau souverain ».
Un rapport tout frais, hein, puisqu'il a été rédigé le 7 mai 2026 et présenté au Conseil le 19 mai. Donc il y a à peine 2 jours.
C'est ça. 14 pages qui exposent comment le premier barreau d'Europe affronte la révolution de l'IA et la domination des géants de la tech.
Et il faut vraiment préciser un truc pour ceux qui nous écoutent. C'est pas juste un problème d'avocat ou d'informaticien.
Ah non, ça touche tout le monde. Quand on parle du secret professionnel de l'avocat, on parle des données de la vie privée des citoyens.
Voilà, un divorce, un licenciement, une fusion d'entreprise. Si l'outil informatique qui gère ça est compromis, c'est toute la confidentialité de notre société qui s'effondre, quoi.
C'est clair. Alors, avant de plonger dans les menaces concrètes, je pense qu'il faut casser un vieux cliché.
Lequel ?
Le coût des avocats sous des piles de dossiers poussiéreux.
C'est exactement ça. On imagine souvent la justice un peu coincée au siècle dernier, allergique aux mises à jour. Mais le rapport rappelle que l'Ordre de Paris se voit comme la première legal tech historique française. Et c'est pas faux, hein. Enfin, il rappelle que dès 2002, sous le bâtonnier X-Wins, ils avaient déjà créé la base déontologique et professionnelle.
La fameuse BDP.
Ouais. En 2002, il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises qui structuraient déjà leurs données internes comme ça. Et ils développent aussi leurs propres outils, genre IMDF.
Alors, IMDF, c'est quoi exactement pour clarifier?
C'est un logiciel métier qui déploie en ce moment même dans toutes les CARPAs de France.
Les CARPAs, c'est les caisses qui gèrent les fonds des clients, c'est ça?
C'est ça, et c'est pas des petites sommes. On parle de milliards d'euros qui transitent, donc c'est des cibles de choix pour les cyberattaques.
D'accord, donc ils savent faire du numérique très sécurisé?
Absolument. Le rapport insiste bien là-dessus, même s'il précise qu'ils ne sont pas non plus une société de services numériques pour le privé.
Du coup, alors, décortiquons tout ça. Si l'ordre est déjà si avancé techniquement, pourquoi ils sortent en urgence cette stratégie basée sur la souveraineté, la sécurité, l'équité? Pourquoi cette panique institutionnelle en 2026?
Ce qui est fascinant ici, c'est que le paradigme a complètement changé. On n'a plus affaire à des petits hackers isolés. La définition même de la souveraineté a dû être vue.
Parce que jusqu'à présent, on nous disait « Vos données sont sur un serveur en France, dormez tranquille, non ?»
Voilà, et le barreau dit « Stop à ça ». Pour eux, la souveraineté, c'est 3 choses cumulatives. L'outil doit être hébergé en Europe, opéré en Europe et sous contrôle exclusif d'une entité européenne.
Sans aucune possibilité d'ingérence d'une boîte étrangère.
Exactement. Et c'est là qu'on rejoint ton histoire de coffre-fort de tout à l'heure. Le rapport pointe directement les lois américaines, comme le Cloud Act ou le USA Patriot Act.
Concrètement, le Cloud Act, ça permet aux autorités américaines d'exiger des données, peu importe où le serveur est physiquement installé dans le monde, c'est ça?
Ouais, à partir du moment où l'entreprise est soumise aux droits américains. Donc même si tes données sont à Paris, si le juge américain demande accès, l'entreprise américaine obéit.
C'est fou ça! Mais attends, et le chiffrement? Si je mets un bon mot de passe, un cadenas numérique ultra complexe, je suis protégé, non?
Non, c'est une barrière illusoire face aux obligations légales. Si l'entreprise qui te fournit le logiciel a la clé de déchiffrement, elle devra la donner aux autorités.
Ah ouais, donc le cadenas saute, et le rapport mentionne aussi un autre truc, le risque du kill switch. Ça m'a interpellé.
Ah oui, la coupure d'accès pure et simple, c'est un vrai cauchemar logistique.
Jean, on te coupe le courant numérique à distance, quoi.
C'est l'idée. Imagine une crise diplomatique grave. Une puissance étrangère pourrait très bien ordonner à ces géants de la tech de restreindre l'accès à leur technologie dans un pays cible.
Donc, un cabinet d'avocats qui utilise que des outils étrangers.
Du jour au lendemain, l'écran reste noir. Plus d'accès aux dossiers, plus de mails, impossible de plaider. C'est un risque vital.
D'ailleurs, à propos de mails, il y a l'alerte du Conseil national des barreaux sur le nouvel Outlook de Microsoft. Le rapport insiste pas mal là-dessus.
Ouais, c'est l'exemple parfait de la perte de contrôle insidieuse. Microsoft change l'architecture de son application.
C'est-à-dire, avant ça marchait comment ?
Avant, l'appli sur ton téléphone se connectait directement au serveur du cabinet. Un tuyau direct, point à point. Mais avec la nouvelle version, il force le transit de toutes les données par les serveurs Microsoft.
Attends, même si le compte mail n'est pas chez eux à la base ?
Exactement. Même pour un compte tiers super sécurisé, l'appli aspire les identifiants, le contenu des mails, les pièces jointes. Ça passe par leur cloud et ensuite ça s'affiche sur ton écran.
Ah d'accord, donc l'outil du quotidien devient un intermédiaire espion presque. C'est comme construire sa maison sur un terrain loué où le proprio peut regarder par la fenêtre et même changer les serrures.
C'est une super métaphore. Et le problème, si on relie ça à la déontologie globale, c'est que l'avocat reste le seul responsable des données de son client.
Toujours. Le Conseil des barreaux européens est super clair là-dessus, je crois.
Tout à fait. Si la chaîne de sous-traitance est trop complexe et que les données fuitent parce que tu as utilisé Outlook sans comprendre comment ça marche derrière, c'est ta faute.
Donc le barreau de Paris dresse ce constat plutôt angoissant. Et face à ça, j'imagine qu'il regarde comment l'État français s'en sort.
Ouais, parce qu'on ne peut pas juste tout débrancher demain matin et se paralyser. Le barreau s'inspire du pragmatisme de l'État.
Il cite la DINUM, je crois, la Direction interministérielle du numérique.
Exactement. La DINUM commence à équiper des postes sous Linux, par exemple. Ils abandonnent Windows sur des centaines d'ordinateurs.
Et il y a aussi le gros projet du Health Data Hub, la fameuse plateforme qui stocke nos données de santé.
Ça, c'est un cas d'école monumental. Aujourd'hui, ces données sont chez l'américain Microsoft.
Et l'État veut les migrer vers un cloud souverain français. Scalyway, le groupe Iliad. Mais le rapport donne une date qui m'a surpris. 2027.
Ouais, à partir de 2027.
Mais pourquoi attendre aussi longtemps ? Enfin, si on sait que les données médicales sont exposées, pourquoi ne pas tout couper et transférer immédiatement ?
Parce que techniquement, c'est un travail de titan. C'est pas un fichier qu'on glisse d'un dossier à un autre avec une souris.
J'imagine, oui.
On parle de migrer des bases de données de plusieurs pétaoctets. Il faut recoder toutes les interfaces, les API, sans jamais interrompre le service pour les hôpitaux ou les chercheurs.
C'est opéré à cœur ouvert, en fait.
C'est ça. Donc l'État assume cette ligne de crête et le barreau fait pareil. On sécurise l'immédiat avec des mesures d'urgence, mais on transforme dans la durée.
C'est aussi ce que fait le ministère de la Justice, apparemment. Le rapport mentionne qu'il déploie un assistant IA pour les magistrats, mais entièrement souverain.
Exactement. Et ça nous amène au point central de cette année 2026, l'intelligence artificielle.
Ah, l'IA. Impossible d'y échapper. Et le barreau de Paris ne veut pas rater le train, mais avec leurs propres règles.
Tout à fait. Ils lancent un projet majeur pour appliquer l'IA à leur domaine le plus sensible, le pôle déontologie.
C'est leur trésor déontologique, en quelque sorte. Le corpus juridique de l'ordre.
Ouais, la jurisprudence, la doctrine. En interne, les équipes de l'ordre reçoivent de plus en plus de saisines. Ils veulent une IA pour les aider à analyser ces dossiers.
Et en externe, pour les avocats parisiens ?
L'idée, c'est de transformer cette fameuse base BDP pour offrir un accès interactif et simplifié aux avocats, histoire de sécuriser leurs pratiques.
Mais là, on confie ça à qui ? Pas à ChatGPT, j'imagine ?
Oh, surtout pas. C'est tout l'enjeu. Ils refusent l'exploitation par des outils externes non maîtrisés. L'IA doit être intégrée de manière totalement souveraine.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Est-ce qu'on va laisser une machine, un algorithme, décider de l'éthique d'un avocat ? Dire « lui, il a fauté, lui, non ».
Non, non. Ça soulève une question importante, mais le rapport est très ferme là-dessus. L'IA reste une simple assistance.
Donc l'humain garde la main.
Toujours. Un contrôle humain permanent est exigé. Il faut savoir que ces IA génératives ont un énorme défaut. Elles peuvent halluciner.
Halluciner, c'est-à-dire inventer des textes de loi ?
Voilà. Elles sont capables de créer de toutes pièces un arrêt de justice très convaincant, mais totalement faux. Donc pour des données ultra sensibles, on ne substitue jamais la machine à l'analyse humaine.
Donc des cahiers des charges super stricts et des phases pilotes interminables, avant de tout lancer, j'imagine.
C'est exactement le plan. Mais attention, cette révolution technologique, elle ne reste pas sagement dans les bureaux de l'ordre.
Ah, l'onde de choc pour les cabinets d'avocats eux-mêmes. Le rapport détaille ça, et c'est un peu brutal, non ?
Très brutal. Le barreau met en place un plan d'action conformité, cybersécurité, RGPD, lutte contre le blanchiment.
Et il va même falloir intégrer des chartes IA et cyber dans les conventions d'honoraires avec les clients. Hein.
Ouais, le client doit savoir quels outils l'avocat utilise pour traiter ses données confidentielles.
Ce qui est logique,
mais ça met une pression dingue sur la gestion des cabinets. Surtout avec les nouvelles lois européennes, comme la directive NIS2.
Ah, la directive NIS2, ça c'est le changement majeur pour la gouvernance.
Parce qu'avant, en cas de piratage, on blâmait le prestataire informatique ou le directeur technique, on est d'accord.
Exactement. C'était le problème de l'informaticien au sous-sol. Mais avec NIS2, les organes dirigeants du cabinet deviennent personnellement responsables en cas de faille de cybersécurité grave.
C'est dingue! L'associé gérant peut être tenu responsable directement.
Voilà. La technologie devient le cœur de la gouvernance. L'ordre va même transformer son centre de documentation classique en un centre de documentation et de technologie juridique.
Pour accompagner tout le monde, créer un réseau de référents cyber. Mais il y a un point dans le rapport qui m'a vraiment fait m'arrêter.
Sur les ressources humaines.
Oui, le point existentiel de la formation. Le rapport écrit noir sur blanc que l'IA pousse déjà certains cabinets à réduire le nombre de collaborateurs et de stagiaires.
C'est un constat dramatique. Traditionnellement, le jeune avocat, il passe ses premières années à éplucher des milliers de pages, à faire des recherches de jurisprudence hyper chronophages.
C'est comme ça qu'il apprend son métier, en fait, à la dure.
C'est ça, mais aujourd'hui, une bonne IA souveraine te fait ce travail de synthèse en quelques secondes.
Donc la technologie n'est plus juste un super outil de recherche. Elle devient une force qui restructure carrément la profession. Elle supprime les postes d'entrée de gamme.
Du coup, la formation continue devient une question de survie immédiate. Comment on forme la relève si la machine fait le travail préparatoire ?
Il va falloir se concentrer sur ce que la machine ne fait pas. L'empathie, la stratégie complexe, l'audience.
Absolument, la valeur ajoutée purement humaine.
Bah écoute, si on fait un rapide résumé de ce voyage, on découvre ce rapport du barreau de Paris de mai 2026. On voit une vraie prise de conscience face aux failles du cloud américain, le risque d'Outlook, les lois extraterritoriales.
Et on voit aussi une réponse très chirurgicale. Réduire la dépendance progressivement, imiter la prudence de l'État.
Tout en intégrant l'IA souveraine pour protéger les données déontologiques et préparer les cabinets à cette vague qui supprime des emplois juniors.
C'est une stratégie de survie et d'indépendance à la fois.
Mais tu vois, ça m'amène à une dernière réflexion. Un peu provocatrice, peut-être, pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y, je t'écoute.
On sait bien que la souveraineté numérique, déployer des IA locales, privées, payer des systèmes de cybersécurité en béton armé, bah, ça coûte une fortune.
Ah oui, les investissements sont massifs.
Du coup, est-ce qu'on ne se dirige pas tout droit vers une justice à deux vitesses ?
C'est-à-dire ?
Un clivage financier.
Exactement.
D'un côté, on aurait des méga-cabinets opérant dans de véritables forteresses numériques souveraines, et de l'autre, des petites structures, des indépendants, qui par manque de moyens financiers, seraient contraints de s'en remettre à des géants étrangers, gratuits ou low-cost, mais super intrusifs.
C'est un risque énorme, une sorte de ségrégation par la cybersécurité. Les clients riches auraient droit à un secret professionnel absolu, et les autres ?
Bah, les autres verraient leurs données exposées. Comment garantir que la souveraineté ne soit pas un luxe ? C'est une vraie question qu'on peut tous se poser.
Et le rapport a le mérite de mettre le sujet sur la table pour toute la profession.
Absolument. En tout cas, si cette exploration nous montre une chose, c'est que la maîtrise de nos propres informations n'est pas qu'un détail technique. C'est aujourd'hui le premier outil, la base même, de notre liberté.
Je suis tout à fait d'accord. C'est le nerf de la guerre.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous invite bien sûr à continuer de creuser ces sujets par vous-même, car ça nous concerne tous. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.